On continue dans Romains chapitre 8. On continue on progresse tout doucement. C'est ce chapitre qui traite de cette délivrance que nous avons en Jésus-Christ. Et bien sûr, ce verset 1 qui commence, il n'y a maintenant donc aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Bien au contraire. Et donc, nous avons un peu progressé là, et je veux reprendre un verset, le verset 15, et puis ensuite nous allons prendre une bonne partie du chapitre là. Donc verset 15, c'est mon verset clé pour ce soir. Verset 15 qui dit « Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba, Père ». Donc il met en contraste, il dit « Vous n'avez pas reçu un esprit de servitude, c'est ce que vous aviez avant, hein. Vous étiez esclave, mais vous avez été affranchi, et donc vous ayant affranchi, ce que Dieu nous a donné, c'est pas seulement qu'il nous a affranchi puis nous a lâché, mais il nous a donné l'esprit d'adoption ». Bien sûr, quand on dit adoption, vous pensez tout de suite à ce principe hein, par lequel on peut rentrer dans une nouvelle famille hein, par l'adoption. On peut devenir membre d'une autre famille et on devient fils avec tous les droits d'un fils grâce à l'adoption. Il faut comprendre qu'il ne faut pas ici, dans Romains, parce que le mot adoption, il faut le prendre dans le contexte culturel de l'époque. Et en France, il y a deux sortes d'adoptions, mais ici, ça correspond à aucune des deux adoptions françaises. Adoption dans le contexte romain, ça peut être son propre fils, mais à certain âge, je le déclare fils. Il devient adulte, il devient responsable. Et là, il est considéré fils, donc il y a une fête. Hein, c'est un peu, chez les juifs, il y a la bar mitzvah, c'est un moment à l'âge de 12 ans à peu près, il devient un homme. Pour les juifs, c'est en fait tous les garçons qui grandissaient, eh bien, il arrive un certain âge, le père le trouve responsable, et alors il dit, maintenant il est fils. Jusque-là, il était, et comme il nous dit dans Galates, il est moins qu'un esclave. Il a des esclaves qui l'enseignent. Il ne donne pas d'ordre, rien du tout. Mais à partir du moment où il est déclaré fils, eh bien là, tout d'un coup, il devient maître. Et là, c'est là où il peut se prononcer. Et donc, quand il nous dit qu'il nous a donné un esprit d'adoption, ce n'est pas seulement, bon, il nous a fait rentrer dans la famille et puis on peut profiter un petit peu. Non, non, ça c'est déclaré fils. Ça veut dire que tu es déclaré fils adulte responsable. Hein, et c'est ça, il s'adresse aux Romains, donc il se sert d'un concept romain. Hein, donc c'est le sens d'adoption dans la culture romaine de l'époque. Et donc, ça permet, alors quand nous sommes en Christ, nous avons été sauvés, et nous avons été délivrés du péché, et il nous déclare fils, et là, de suite, on peut l'appeler père. Hein. Et donc, c'est un statut nouveau, c'est le meilleur statut, et c'est ce que Dieu fait pour nous. Donc, en parlant de l'Esprit, nous avons parlé déjà plusieurs fois de l'Esprit, parce que dans ce chapitre 8, vous voyez l'Esprit de Dieu qui revient constamment, l'Esprit de Dieu. Et donc, au verset 9, il nous parle de vivre selon l'Esprit, on en a parlé pas mal la semaine dernière. C'est l'important de vivre selon l'Esprit, pas seulement naître de l'Esprit. Ça, c'est Jean chapitre 3. Hein, celui qui est né de la chair est chair, celui qui est né de l'Esprit est esprit. C'est pas seulement naître de l'Esprit, mais après vivre de l'Esprit. Hein. Donc là, quand on a été dans Romains 8, il nous prend, il nous dit, vous êtes des enfants responsables. Hein. Et donc vivre selon l'Esprit. Deuxièmement, au verset 14, il nous dit que nous sommes conduits par l'Esprit. Hein, il dit « Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Et il y a l'expression d'être conduit par l'Esprit. Donc c'est pas seulement exister, c'est pas seulement je reçois une vie nouvelle, j'ai la vie éternelle grâce à l'Esprit, mais maintenant c'est d'être conduit par l'Esprit. Quand on est conduit, ça veut dire c'est qui est-ce qui décide. C'est la volonté de qui prime. Celui qui conduit. Hein. Sinon, vous serez embêté. Si c'est la voiture qui décidait que c'est elle qui décide où elle va, en général, c'est un accident. Quand c'est le chauffeur qui décide où elle va, ça tient la route. Et là, il nous dit, bon, en tant que chrétien, c'est plus moi qui conduis, c'est lui. Hein. Paul, on a vu ça la semaine dernière, hein, Galates 2:20, il a dit, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. C'est lui qui conduit. On est conduit par l'Esprit de Dieu. Et au verset 15, là, donc le verset que nous venons de lire, il dit aussi, c'est par l'Esprit que nous pouvons crier « Abba, Père ». On ne peut pas, c'est pas juste parce qu'on emploie le mot. Non, il a dit « Tu as le droit de le dire ». Vous savez, c'est pas « Mon Père », c'est pas n'importe qui pouvait l'appeler « Papa ». Il fallait naître dans la famille ou bien avoir été adopté dans la famille pour pouvoir l'appeler « Papa ». Sinon, on n'a pas le droit. Hein, et là, par l'Esprit de Dieu, parce que nous sommes nés de l'Esprit, eh bien, nous pouvons appeler Dieu « Père ». Les musulmans, quand ils disent « Ah non, non, on ne peut pas appeler Dieu, on ne doit pas l'appeler Père », ils ont raison. Parce que dans l'état où ils sont et la manière dont les choses se passent chez eux, il n'est pas leur Père. Mais lorsque je suis né de Dieu, et lorsque j'ai reçu la vie nouvelle, le sang de Christ a purifié des péchés, je suis né par l'Esprit, maintenant, par l'Esprit qui est en moi, je peux dire « Abba, Père ». Et il va l'entendre parce que c'est au travers de l'Esprit que je le dis. Et aussi nous avons vu au verset 16, il nous dit « L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu ». Donc c'est par l'Esprit que nous sommes déclarés enfants de Dieu. Ce n'est pas moi qui le déclare, ce n'est pas le pasteur, ce n'est pas parce que j'ai reçu un formulaire ou j'ai signé un formulaire, c'est parce que l'Esprit de Dieu me dit que je suis enfant de Dieu. Et il faut avoir ce témoignage dans son cœur par l'Esprit de Dieu qui me dit « Non, non, tu es sauvé, tu es enfant de Dieu, tu n'as rien à craindre. » Et c'est important d'avoir ce témoignage. Et puis ensuite, donc verset 26, hein, donc beaucoup plus loin, verset 26, il dit « Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables et celui qui sonde les cœurs connaît la pensée de l'Esprit parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. » Donc, nous sommes aidés par l'Esprit dans nos prières. Hein, donc, l'Esprit, l'important, la présence de l'Esprit de Dieu est très importante dans la vie du chrétien. Quand je dis très important, ça veut dire que c'est indispensable. Hein. Donc, et on pourrait faire une liste, je reste dans ce chapitre, mais finalement, je pourrais aller ailleurs dans la Bible et dire, par exemple, je ne peux pas comprendre la Bible sans l'Esprit de Dieu. On ne peut pas comprendre les choses de Dieu sans l'Esprit de Dieu et d'autres choses. Donc déjà ici dans ce chapitre, il nous parle de vivre selon l'Esprit, conduit par l'Esprit. On peut s'adresser à Dieu par l'Esprit. On sait que nous sommes enfants de Dieu par l'Esprit et il nous aide dans nos prières quand nous prions. Nous ne savons pas exactement comment prier, mais lui, il traduit notre prière. Et la présente à Dieu. Donc l'importance de l'Esprit de Dieu. Et nous avons vu au début du chapitre, il a dit, hein, l'affection aux choses de la chair, c'est la mort, tandis que l'affection à l'Esprit, hein, aux choses de l'Esprit, eh bien, c'est la vie et la paix. Hein, donc c'est une autre vie que la vie que nous menions avant, c'est une autre vie et animée autrement. Donc, parce que nous avons cet esprit d'adoption, hein, parce que nous avons été déclarés fils par le Père, hein, c'est pas nous, on dit « moi je veux être ton fils, fais-moi ton fils ». Non, non, c'est lui qui doit, c'est le Père qui dit « ça, c'est mon fils hein, ». C'est très important. Et donc, parce que nous avons, eh bien nous pouvons dire « Abba Père ». Mais aussi au verset 17, donc il nous dit, au verset 17, il dit « si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritier de Dieu et co-héritier de Christ. Héritier de Dieu. Mais si on devient, hein, si je suis adopté et si je deviens fils, eh bien je suis automatiquement l'héritier. Et il nous dit, et comme Jésus est fils aussi, nous sommes co-héritiers avec Christ. Nous héritons avec lui ce qu'il hérite, ce que Dieu lui donne, nous avons accès. Et je ne dis pas laissez courir votre imagination de ce que ça peut représenter, mais sachez que tout ce que Jésus a acquis à la croix, eh bien, nous l'avons. Tout ce qu'il a acquis. Et quand Dieu dit, en Philippiens chapitre 2, il dit, c'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé, lui a donné un nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse. Il lui a donné, il lui a rendu cette gloire. Eh bien, nous avons accès à cette gloire. Si Jésus va au ciel, nous pouvons aller au ciel. Si Jésus devient maître des cieux et de la terre, nous devenons maîtres. Nous sommes co-héritiers. Hein. Et bon, dites, moi je ne demandais pas tant. Hein. Moi, tout ce que je veux, c'est vivre. Hein. C'est pas aller en enfer, c'est tout ce que je demandais. Mais non, Dieu, il fait les choses jusqu'au bout. Hein. Il nous donne le maximum. Donc, heureusement que ce n'est pas nous qui avons inventé le Nouveau Testament, parce qu'on n'aurait pas mis tout ça. Mais en fait, c'est. En fait, si nous sommes étonnés de l'amour de Dieu manifesté sur la croix, eh bien, restons encore plus étonnés par tout ce qui a, qui vient avec. Hein, c'est, on dit, c'est un package, mais c'est vraiment un gros colis avec tout ce que l'on reçoit et encore. C'est au-delà, l'apôtre Paul dira, c'est au-delà de ce que vous pouvez penser ou imaginer, de ce que nous avons reçu en Jésus-Christ. Bon, déjà, ce que nous savons, c'est déjà pas mal. Et nous, il y a de quoi louer Dieu jusqu'à ce qu'on arrive dans la gloire et puis qu'on découvre le reste. Bien sûr, quand on est enfant de Dieu, on n'a pas l'attitude que peuvent avoir les gens sur terre quand ils héritent de leurs parents. Ils vont se disputer avec leurs frères ou avec les sœurs et puis se dire, voir plus que l'autre et c'est ma part et des choses comme ça. Hein. Les choses se passeront. C'est tout de la grâce. Donc on se dit, Seigneur, tu donnes ce que tu veux. Moi, je ne suis pas digne de quoi que ce soit. Donc ce que tu me donnes, je te dis merci. Hein, c'est un peu l'attitude que nous avons en tant qu'enfants de Dieu. Donc parce que nous avons reçu un esprit d'adoption, parce que nous avons été adoptés, selon le concept romain, hein, il a employé ça comme, pour illustrer, eh bien... nous pouvons l'appeler Père, et puis ensuite, nous sommes héritiers. Qu'est-ce qu'il y a encore? Eh bien, il ajoute quand même, verset 17, hein, je n'ai pas lu tout le verset tout à l'heure, et, verset 17, il dit, si nous sommes enfants de Dieu, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. Donc il y a un aspect de souffrance, il y a une partie de souffrance sur terre. Et les gens qui vous disent, non, maintenant que tu es enfant de Dieu, écoute, tu pries, il chasse la maladie, il chasse tout, le Seigneur donne tout par l'Esprit de Dieu. Si tu as la foi, tout va bien. Mais ce verset ne correspond pas trop bien. Hein, puis il dit si nous souffrons avec lui. Bien sûr, il dit souffrons avec lui dans le sens que ben, si tu es, il a souffert et nous ne devons pas être étonnés de souffrir aussi. Mais en fait, souffrir pour lui, souffrir avec lui, rentrer, participer à ses souffrances, l'apôtre Paul considérait une grâce de pouvoir souffrir pour lui parce qu'il savait combien il avait été souffert pour Dieu, Christ avait souffert pour lui. Et il y a un autre mot pour la souffrance là, mais il ajoute. Parce que remarquez qu'avec souffrons à côté, il y a glorifié. Donc c'est. Nous, en tant qu'être humain, dès qu'on voit le mot souffrir, on a les frissons. Mais il dit afin d'être glorifié avec lui. Glorifié avec lui de la gloire que lui reçoit. Et au verset 18, il ajoute. J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Il a dit, mais la souffrance de maintenant, c'est rien par rapport à ce qu'on va recevoir. Hein? Et un peu plus loin, il va pas employer l'image de la femme qui enfante. Et il y a un temps de douleur, mais après, c'est suivi d'un temps de joie. Hein? Et les souffrances du temps présent, parce que nous sommes encore dans le monde, parce que nous sommes encore sur terre, il y a des souffrances que nous supportons, il y a des souffrances auxquelles nous participons parce que nous faisons partie de la nature, de la race humaine, parce que, et il va développer cela. Mais ce qu'il nous dit, gardez cette perspective, la différence entre nous et les autres souffrent. Et après, il dit, oui, mais après, c'est la mort, et puis c'est terminé, donc je veux m'amuser autant que possible aujourd'hui. Tandis que moi, je dis, oui, bon, il y a un passage un peu difficile là sur la vie, mais je sais ce qui m'attend, et c'est bien plus glorieux. C'est vrai, je crois que c'est la semaine dernière, je vous parlais de cette semaine dernière, ou la semaine avant, il y avait cette dame, l'épouse d'un pasteur au Canada, qui sert le Seigneur il n'y a pas longtemps, et puis après avec le cancer, elle est arrivée maintenant, elle arrive en phase finale, et je viens de lire aujourd'hui, elle a mis dans sur son Facebook, elle a dit, je suis en train, la gloire qui m'attend me devient précieuse, ça y est, ses pensées, elle a déjà commencé, elle est en train d'écrire, et ici, elle est en train de penser à l'au-delà. Elle a dit, j'ai discuté des choses avec mon mari, je lui ai expliqué pas mal de choses, mais maintenant, ça y est, mes pensées, elle est partie dans un autre monde avec ses pensées. Elle sait que la fin arrive. Mais pourquoi ? Parce que, oui, elle est en train de souffrir maintenant, mais elle sait que la gloire qui attend est bien au-delà. Parce que, et c'est pas juste l'imagination, on dit, ouais, ça fait plaisir de penser que c'est bien. Non, non, c'est réellement bien. Pourquoi ? Parce qu'on a affaire à Dieu. C'est pour ça qu'on sait que s'il nous dit que c'est bien, c'est que c'est vraiment bien. Hein? C'est comme, tout à l'heure, je taquinais avec Francisca. Si M. Barnes lui dit que oh, c'est super, mais si Mme Barnes lui dit que c'est super, elle va croire que c'est super. C'est une question de comment, ce qu'on pense de la personne et ce qu'on croit de la personne. Parce que M. Barnes, bon, il raconte n'importe quoi. Mme Barnes, non. Hein, donc M. Barnes, il taquine pas mal. Tandis que Mme Barnes, elle est toujours... Vous savez, quand on a affaire avec... Dieu a dit. Bon, M. Barnes peut-être, ou un grand prédicateur, il dit des choses. Oui, mais qu'est-ce que Dieu a dit? Et si Dieu dit que c'est glorieux, c'est glorieux. Et on n'a rien à craindre. Et au verset 30, donc au verset 30, il nous dit, et je lis tout le verset, il dit, ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Donc les péchés sont pardonnés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Ça fait partie du plan. Hein? Ce sont toutes les étapes du salut. Et donc la fin, c'est être glorifié. C'est être dans la gloire. C'est là où notre corps est transformé en corps incorruptible. Et il nous donne ainsi accès à ce monde où la corruption n'existe plus. Nous avons reçu un esprit d'adoption par lequel, et ça c'est ce que je viens de dire, même si nous souffrons, nous serons glorifiés avec lui. Et il nous dit, la souffrance du temps présent ne saurait être comparée à la gloire à venir. Donc, oui, il y a souffrance actuellement. Hein, et même l'enfant de Dieu souffre, il peut souffrir, et certains peuvent souffrir terriblement en fonction de la maladie, en fonction des circonstances économiques, en fonction du pays dans lequel ils sont, en fonction de quelle est la religion dominante de l'endroit. La souffrance, elle peut varier. Hein. Il y en a qui souffrent terriblement de nos jours. Et ils sont en prison et tout cela. Et d'autres qui souffrent terriblement dans leur corps. La souffrance, mais il dit, la souffrance du temps présent ne saurait être comparée à la gloire à venir. Il n'y a aucun rapport. C'est ce qui nous attend est extraordinaire. Parce que c'est à la taille de Dieu, hein, de la gloire de Dieu. Et donc, quand je sais que si je marchais dans un tunnel, mais si je n'étais pas sûr que c'était ouvert à l'autre bout, vous savez, ce serait difficile de continuer de marcher. Et c'est pour ça qu'on parle toujours de « je vois de la lumière au bout du tunnel ». Je vois le bout du tunnel. Parce que rien qu'à partir du moment que je vois de la lumière, même si c'est sombre et noir ici, mais je vois qu'il y a de la lumière, ça me fait marcher. Mais si je ne vois plus rien, et je ne suis même pas sûr qu'il y a quelque chose, c'est sûr que le chemin peut paraître difficile. Hein. Donc pour nous, en tant qu'enfants de Dieu, eh bien nous savons qu'il y a de la lumière au bout du tunnel. Et quelle que soit la nature du tunnel, et il est différent pour chacun d'entre nous, hein, on ne peut pas se comparer les uns aux autres. Nous vivons, chaque famille vit des circonstances différentes, chaque personne vit des circonstances différentes, des chrétiens de certains pays et de certaines régions, et c'est très différent. Là, la sœur qui vient le dimanche à Roumaine, elle a connu la vie sous Ceausescu et tout ça, et les chrétiens, et c'était autre chose. Et donc son enfance était vécue sous ça. Ça, c'est autre chose. Là, je viens de recevoir une lettre de chrétiens au Turkménistan, et le seul moment où ils peuvent se réunir pour faire un culte, c'est entre minuit et 4 heures du matin. Imaginez, hein, si le seul moment de culte, c'était entre minuit et 4 heures du matin. Et en plus, ils ont dû refuser du monde parce qu'ils ne pouvaient pas recevoir tout le monde. Les souffrances, ce n'est pas pareil pour tous. Mais ce qui est sûr, c'est l'issue, elle est glorieuse. Donc, le début du chapitre nous dit, nous sommes affranchis. Hein. Il n'y a pas de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Et maintenant, il nous dit, mais ce n'est pas seulement question qu'il vous a libéré, il vous a sorti d'une prison et puis vous a dit, écoute, débrouillez-vous. Non, non, il avait un programme tout prêt pour nous. Hein. Vous sortez de prison, il y a un bus qui vous attend, et puis il y a un voyage à faire, et puis après il y a un endroit extraordinaire. C'est ça que, de manière imagée, c'est ce que Dieu prévoit. Hein. Quand on parle de souffrance, eh bien, regardez, on lit au verset... Verset 19, il dit « Aussi la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu ?» Il dit « La création attend ce jour où nous aurons notre salut. » Parce que la création créée par Dieu, eh bien, sait que le moment où Jésus-Christ interviendra pour nous délivrer, elle sera aussi délivrée. Parce qu'elle souffre. Le monde, la nature, le monde naturel, eh bien, normalement, ne devait pas souffrir. Quand Dieu l'a créé, il a dit que c'est bon, c'était bien, il n'y avait pas de mort. Parce que Dieu, s'il y avait la mort, Dieu n'aurait pas trouvé bon. Il n'y avait pas de mort, il n'y avait pas de décès, il n'y avait pas d'animaux carnivores, il n'y avait pas de renards pour manger les lièvres. Et il y avait... c'était autre chose. Et quand Adam et Ève ont péché, c'est pas seulement l'humanité qui est tombée dans le péché, mais c'est en plus la souffrance est rentrée dans le monde. Et c'est là où sont arrivés, à cause de cela, que sont arrivées les maladies, sont arrivées toutes sortes de choses qui créent de la souffrance, qui causent de la souffrance. Et il dit que même la nature attend ce jour. Elle attend le jour de la délivrance. Le jour de la révélation des fils de Dieu. Quand ils seront, Dieu fera ce qu'il a prévu de faire pour eux, eh bien le monde sera délivré. Bien sûr, quelqu'un peut écouter tout ça et dire, waouh, vous avez de l'imagination, hein, vous. Je dis, si ça vous motive, tant mieux. Hein. Psychiquement, ça peut vous faire du bien. Ben, si vous aimez ça, ça va. Hein, vous dites, ah ouais, ouais, là-haut, c'est bien, tout ça. Ils se moquent de nous parfois à ce niveau. Le truc, c'est que, et si c'est vrai, et si c'est vrai, et toi, parce que tu n'as pas cru, tu rates tout ça. Mais c'était un peu le raisonnement de Pascal. Hein, mais la question, c'est, et souvent en tant que chrétien, on se dit, mais moi, tout ça, eh bien, si c'est vrai, si tout ça c'est vrai, eh bien je suis prêt. J'ai vécu pour le Seigneur, je suis prêt. Et s'il n'y a rien de tout cela, eh bien je n'ai pas vécu une vie malheureuse. Parce que j'ai la paix, la joie, j'ai le pardon de mes péchés. Et je ne suis pas malheureux parce que je crois en Jésus-Christ. Mais s'il y a quelque chose, je suis prêt. Tandis que celui qui ignore Jésus-Christ, et il fait comme il peut, quand il arrive, pour parler de manière tout à fait à la manière du monde, et si jamais il y avait quelque chose, eh bien il le voit passer, il n'y a rien pour lui. Donc, mais il dit, la nature attend. Ensuite, il y a aussi le prochain verset. Et donc verset 21, il nous dit « Avec l'espérance qu'elle aussi sera affranchie de la servitude de la corruption pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. » C'est-à-dire, elle sait que le jour où nous serons affranchis, elle sera affranchie. Et la Bible nous parle de nouveaux cieux, nouvelle terre, et même les prophètes ont parlé de cette époque. Les témoins de Jéhovah en font un grand cas. Quand vous avez leur manuel, vous trouvez les images. Ils ont toujours des jolies images de jardins, puis des animaux qui se baladent, tout ça. Bon, il y a du vrai. Mais parce que c'est ce que ce sera sur la terre. Hein, éventuellement, ce sera ça. On va retrouver, reconstituer le monde tel que Dieu l'avait prévu. Pour nous, c'est avec le Seigneur, dans la gloire. Après, on va trouver trois fois le mot soupir, le verbe soupirer ou le nom soupir dans ce passage. La première fois, c'est au verset 22. Il nous dit, la création, nous savons jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. Elle dit, elle souffre, et c'est vrai, hein, tout autour de nous, c'est la souffrance. Nous regardons la vie végétale, elle souffre. Il y a des maladies chez eux. Si nous regardons la vie animale, ils souffrent. Ils sont tout le temps sur l'affût, hein, voir s'il n'y a pas à être attaqué, mangé ou quelque chose. Et presque ils ont plus peur de l'être humain que des autres. Et puis après, l'être humain aussi souffre. Et on est toujours à l'affût, et nos journaux télévisés, eh bien, presque tous les soirs, il y a quelque chose qui est arrivé quelque part. C'est l'humanité qui souffre. Et il dit, la création entière soupire. Hein, vous connaissez le mot soupirer. Hein, c'est un peu fataliste, je ne sais pas quoi faire, c'est là. La terre soupire en attendant. Le jour, la femme enceinte attend ce jour où elle accouchera. Il nous parle aussi au verset, un peu plus loin, là, au verset 23. Il nous dit aussi, et ce n'est pas elle seulement, dit la création, mais nous aussi, nous avons les prémices de l'esprit, nous soupirons en nous-mêmes en attendant l'adoption, la rédemption de nos corps. Hein? Donc nous aussi nous soupirons en attendant ce jour de la résurrection, où nous serons vraiment, vraiment délivrés. Et nous soupirons. Et le mot est choisi, hein, c'est tout à fait ça. J'ai regardé même dans le grec, hein, c'est ça que ça veut dire, hein, soupirer. Vous savez ce que c'est soupirer, hein, on soupire tout, en fait, peut-être tous les jours, hein, il y a quelqu'un qui soupire, hein, on soupire pour quelque chose. il y a quelque chose qui ne se passe pas correctement. Quelque chose qui est... Hein, mais voilà. Mais nous soupirons, ça fait partie de la vie. Mais nous attendons le jour de l'adoption, le jour où le corps sera délivré. Et il nous parle aussi de l'Esprit de Dieu en nous. Et l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. C'est-à-dire, c'est, vous savez, l'Esprit de Dieu, c'est Dieu. Et quand il a affaire avec nos problèmes et il doit en parler à Dieu, il le fait, il les dit avec des soupirs. Hein? Il parle de mon souci, il parle de votre souci, il doit en parler à Dieu. Il dit, tu sais encore ce qu'il a fait? Tu sais encore ce qui lui est arrivé? Dieu, tu as encore vu ce dont il a besoin? Et c'est toutes des choses qui sont qu'on a, qui nous arrivent à cause du péché, à cause du péché qui existe dans le monde. Et c'est avec des soupirs inexprimables, mais il présente les besoins au Père. Et il nous dit, et même à la fin du verset 27, il nous dit, et c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Donc même si c'est avec des soupirs, mais c'est en notre faveur. C'est en faveur des saints et c'est pour notre bien. Il est de notre côté. Il cherche notre bien. Alors, c'est pour ça que le verset 28, et c'est là, lorsqu'on rassemble, maintenant qu'on a vu tout cela, le verset 28, il prend un sens. Hein, il dit, nous savons du reste que toute chose, tout ce qui arrive, bonne et mauvaise, concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Ceux qui, il a dit toutes ces choses, vous ajoutez, faites le total dans votre vie de tous les plus et tous les moins. Et vous savez, il vous suffit d'avoir, il nous dit que le résultat il sera positif. Il dit, c'est vrai, vous n'avez pas tous les mêmes nombres de moins, et puis il y en a qui ont l'impression d'avoir beaucoup de moins, mais il dit, mais quand ça sera tout terminé, quand on fera tous les plus et les moins, eh bien, ce sera positif à la fin. Et ça concourt pour le bien de ceux qui aiment Dieu. Et ça, c'est la promesse. Il dit, nous savons. Pourquoi? Pas parce qu'on est fort, pas parce qu'on est persévérant, pas parce qu'on est sans péché, mais parce que Dieu est fidèle. Hein? C'est pour ça que nous savons. Parce que c'est Dieu qui le promet. Nous savons du reste que toute chose, il y a combien d'exceptions dans toute chose? Zéro. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Donc ceux qui sont à lui. Ceux qui sont appelés selon son dessein. Ceux qui ont répondu à son appel. Et ceux qui sont dans son plan. Hein? Pour les autres, à eux, ils se débrouillent avec la chance. Et avec. Ils essayent de se débrouiller entre chance et mauvais sort et malchance et toutes sortes de choses. Eux, ils se débrouillent comme ils peuvent. Mais pour l'enfant de Dieu, eh bien, il sait que Dieu contrôle et toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. C'est ce matin, j'étais en train de lire dans Marc et il nous disait, quand Jésus a envoyé les disciples pour aller chercher trouver la chambre haute, et il envoie deux disciples. Il dit, vous rentrez dans la ville, vous trouvez un homme en train de porter une cruche. Vous le suivez et la maison dans laquelle il rentre, vous rentrez et au maître, vous dites, le maître a besoin d'un endroit pour passer la fête. Et il dit, il vous le donnera. Imaginez que moi, je vous dis comme ça. Je vous envoie à Fréjus, il dit, vous allez à Fréjus, vous allez trouver un gars avec une casquette jaune, vous le suivez. Et puis quand il rentre dans une maison, vous rentrez là-dedans, vous dites, j'ai besoin d'une chambre. Et vous, vous allez me regarder, vous dites, et puis quoi encore? Tu te payes ma tête? Et oui, peut-être, avec des humains, oui. Mais avec Dieu, il contrôle. Pour que la vitesse à laquelle, l'heure à laquelle les disciples allaient arriver, l'autre qui est envoyé pour aller chercher de l'eau, qui a la cruche, qui est là en même temps qu'eux, et puis savoir qu'il rentre et savoir ce que pense le maître, coordonner tout cela. Vous savez, alors que chacun faisait sa volonté. Chacun était libre. Celui qui portait la cruche, il était sous aucune obligation. Il faisait son travail, il s'occupait de ce qui le regardait. Les disciples, ils marchaient. Le maître, il est dans sa maison. Tout est normal, rien ne forcé. Mais ça se passe exactement comme Jésus a voulu. Vous savez, c'est que Dieu peut agir et Dieu peut intervenir. Nous avons un Dieu extraordinaire. Le seul, celui qui vous a raconté et qui vous a dit qu'une fois qu'on est chrétien, il n'y a plus de problème, tout va bien, c'est un menteur. Parce que là, il nous a parlé, il nous dit, oui, il y a un temps de souffrance, mais ce qui vous attend, c'est glorieux. Prions.